Savez-vous ce qu'il se passe dans votre ventre? Alors bien sûr, celui-ci gargouille parfois quand on a un coup de faim, il fait parfois mal quand on a trop bu, ou il gonfle quand on mange trop. Bref, notre ventre, et plus précisément notre estomac, réagit à ce qu'on lui donne. Pour beaucoup, c'est un deuxième cerveau qui réagit autant à nos émotions que le premier, qui est dans la tête. Et parmi les bactéries qui régissent nos ventres, il y a les microbiotes. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, on en parle de manière simple, ou en tout cas vulgarisée, avec le docteur Julien Scanzi. Il est gastro-entérologue à l'hôpital de Thiers et au CHU Estin de Clermont-Ferrand. Bonjour.
Bonjour.
Alors sur Instagram, vous expliquez dans vos vidéos ce qui se passe dans nos petits bidous hein, pour les comprendre un peu mieux. Mais revenons peut-être à la base, avant d'aller un peu plus loin sur des sujets qui peuvent paraître complexes au premier abord. C'est quoi être gastro-entérologue?
En fait, c'est les médecins qui s'occupent de soigner tout ce qui concerne le système digestif. Alors il y a bien sûr le tube digestif qui va en gros de la bouche à l'anus, ça comprend bien sûr les intestins, le petit, le gros, mais également l'estomac, l'œsophage, et également d'autres organes qui nous servent à la digestion au sens large, comme notamment le foie, le pancréas, les voies biliaires. Donc voilà, je m'occupe d'un petit peu toutes ces maladies-là.
Donc ça passe vraiment par, je dirais, un grand nombre d'organes quand même dans notre corps. Hein.
Exactement, donc c'est un métier qui est vraiment très varié puisque vous pouvez vous douter que les pathologies du foie comme les hépatites, la cirrhose, etc. sont très différentes des maladies de l'intestin comme la maladie de Crohn, l'intestin irritable ou d'autres pathologies comme ça.
Au quotidien, vous faites des consultations, vous êtes amené peut-être aussi à opérer?
Alors, on n'a pas d'opération à proprement parler, mais on a des interventions qui sont les endoscopies. Donc, je fais effectivement beaucoup de consultations, également des endoscopies qui sont en fait des examens où on arrive à voir à l'intérieur des organes, notamment du tube digestif. Et vous connaissez probablement les fibroscopies et les coloscopies, voilà, qui nous permettent d'aller voir à l'intérieur des intestins, voir s'il y a des problèmes particuliers.
Alors, votre spécialité, ce sont les microbiotes intestinaux. Qu'est-ce que c'est?
Alors, qu'est-ce que le microbiote? Le microbiote, en fait, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas le microbiote intestinal, peut-être qu'ils ont déjà entendu parler de la flore intestinale. C'est la même chose, c'est juste que maintenant, on a changé de nom, on parle de microbiote. Un microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes vivants. Donc, il y a bien sûr des bactéries, principalement, mais il y a aussi d'autres micro-organismes, comme des virus, des levures, des champignons, même des parasites. Et tous ces micro-organismes-là cohabitent au sein d'écosystèmes qu'on appelle microbiote. Et le plus important, le plus riche, diversifié, varié, celui qui est le plus en lien avec notre santé, c'est le microbiote intestinal. Au sein de nos intestins, on héberge à peu près 40 000 milliards de bactéries différentes.
Alors vous avez écrit un livre hein, là-dessus, « Incroyable microbiote » aux éditions Le Duc, qui revient en illustration, une manière très vulgarisée sur cela. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse autant ?
Alors moi, je suis rentré dans le monde du microbiote par le cas, en fait, dire le plus extrême. J'étais l'un des premiers en France à faire une intervention qu'on appelle la transplantation de microbiote fécal, qui consiste à soigner quelqu'un qui a une maladie liée à des problèmes de microbiote intestinal et notamment une infection qu'on appelle l'infection à Clostridium difficile. C'est une bactérie qui est très difficile à éradiquer avec les antibiotiques. Et donc, j'avais une patiente qui répondait à aucun antibiotique, qui allait mourir de cette infection-là. Et il venait d'y avoir une étude qui montrait l'efficacité de cette procédure-là. Et donc, en transférant les selles d'un individu sain à cette malade, je l'ai guéri de cette maladie-là il y a une dizaine d'années. Donc, j'étais l'un des premiers à faire ça. Et depuis, bon, ça m'a vraiment bluffé. Je me suis rendu compte à quel point notre microbiote avait un pouvoir sur notre santé, qu'on pouvait guérir des gens en changeant le microbiote. Et donc, chaque jour, je me suis intéressé un peu plus à ces fabuleux pouvoirs. Et puis, puisque les études scientifiques sortent chaque jour un peu plus en montrant l'impact du microbiote intestinal sur notre santé. Donc moi, en m'intéressant à ça, je me suis dit, mais il faut absolument sensibiliser le plus possible les gens pour que chacun ait conscience qu'on est microbien et que cette partie microbienne qui vit en nous, elle nous veut du bien, elle est là pour faire qu'on reste si possible en bonne santé. Et donc il faut arriver à préserver ce monde microbien, puisque si jamais ce microbiote s'altère et reste altéré, ça peut être propice au développement de maladies chroniques.
Et après, évidemment, comme vous le disiez, c'est difficile à éradiquer, ne serait-ce qu'à soigner.
Exactement. Le plus simple est de préserver le microbiote quand il est encore riche, diversifié, en bonne santé, entre guillemets, parce qu'un microbiote qui est altéré et qui reste altéré, c'est beaucoup plus difficile de l'améliorer et qu'il soit propice à une meilleure santé. En fait, on est censé vivre en symbiose avec nos bactéries intestinales. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'idée, c'est qu'on apporte aux bactéries intestinales ce dont elles ont besoin pour se nourrir et rester, se développer, etc. Et à l'inverse, hein, du coup, de façon réciproque, nos bactéries intestinales, nos microbiotes participent au bon fonctionnement de notre organisme et font en sorte de nous maintenir en bonne santé.
Comment justement bien entretenir ces microbiotes? Est-ce qu'il y a des conseils, je dirais faciles, en tout cas accessibles?
Alors c'est majoritairement notre mode de vie qui va avoir un impact sur notre microbiote intestinal. Alors il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire la façon dont on est né, si on a été allaité ou pas, si on doit prendre des traitements antibiotiques, tout ça, ça peut jouer sur la construction de notre microbiote, notamment dans la petite enfance. Par contre, après, effectivement, notre mode de vie a un impact majeur sur notre microbiote intestinal, à commencer par notre alimentation. En fait, tout ce qu'on va ingérer va potentiellement avoir un impact sur nos bactéries intestinales. Alors, ce qu'adorent nos bactéries intestinales, ce sont les fibres alimentaires qu'on va retrouver dans toute l'alimentation végétale, les fruits, les légumes, les légumineuses, tout ce qui est haricots secs, pois chiches, lentilles, lentilles corail, etc. Les céréales complètes, les oléagineux, etc. Donc ça, nos bactéries, en fait, ces fibres, elles vont pas être digérées par notre organisme humain, on n'a pas les bonnes enzymes, et elles vont arriver telles quelles dans notre gros intestin où nos bactéries intestinales vont les digérer et en échange vont fabriquer des petites molécules qui vont être très utiles pour notre organisme, comme certains acides gras, etc. Donc l'idée, voilà, c'est de leur apporter ces fibres, de leur apporter éventuellement des aliments fermentés qui sont... vous connaissez tous les yaourts, voire la choucroute, sont des aliments fermentés, mais on peut également fermenter par lactofermentation tout un tas de fruits et légumes. Il y a des boissons fermentées comme le kéfir, le kombucha, etc. Quand on va consommer ces aliments, on va apporter à notre organisme des bactéries vivantes, des levures vivantes qui vont potentiellement enrichir notre microbiote et avoir un effet positif sur notre santé. Donc l'idée, c'est plutôt de leur apporter ça et d'éviter de leur apporter des choses délétères, donc un excès de sucre. Effectivement, on vit dans une société où on consomme beaucoup, beaucoup trop de sucre, et beaucoup d'aliments transformés et ultra transformés qui sont bourrés d'additifs. Ces additifs sont très mauvais et altèrent le microbiote intestinal, détruisent des bactéries intestinales.
Ce sera à consommer avec modération, comme toujours.
Exactement. Et puis après, il y a le reste, au-delà de l'alimentation, il y a notre mode de vie. On sait qu'une activité physique régulière, on sait qu'un bon sommeil, on sait qu'un stress limité, tout ça vont être plutôt propices à conserver un bon microbiote.
Il y a des sports, en tout cas plus propices à ça, la course à pied ou d'autres?
Alors, pas forcément. L'idée, c'est simplement l'activité physique régulière. On sait à l'heure actuelle que, par exemple, la marche, tout simplement, quand on la pratique à de l'ordre de 30 minutes de façon régulière, elle est bénéfique pour notre santé et également pour notre microbiote.
Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, en tout cas avant une dégradation, peut-être du microbiote et donc de nos intestins?
Alors malheureusement, il n'y a pas forcément de signes avant que le microbiote soit altéré. Les signes cliniques commencent à apparaître quand le microbiote est déjà altéré. Alors il y a bien sûr avant tout des signes digestifs, hein, un transit qui se perturbe, de type diarrhée par exemple, des ballonnements, le ventre qui gonfle, une intolérance à certains aliments, toutes ces choses-là. Puis après il y a d'autres signes, on a des signes extra-digestifs qui peuvent être de la fatigue, des problèmes au niveau de la peau, des allergies, tout ça sont des signes parfois d'un microbiote effectivement déséquilibré.
Est-ce qu'il y a des médicaments, un peu comme les antibiotiques, qui permettraient de les réguler, en tout cas de les aider?
Alors effectivement, à l'inverse des antibiotiques, puisque dans le mot, c'est destruction d'organismes vivants, hein, d'antibiotiques, il y a les probiotiques. Alors c'est difficile de dire que les probiotiques vont totalement rééquilibrer un microbiote qui aurait été altéré. En tout cas, certains probiotiques peuvent compenser un certain déséquilibre du microbiote et notamment avoir un bénéfice dans certaines situations, comme par exemple la prise d'antibiotiques. Si vous prenez des antibiotiques, ce n'est pas fait pour détruire malheureusement les seules mauvaises bactéries, ça va avoir un impact sur toutes nos bactéries et notamment les bactéries de notre microbiote intestinal. Et donc si on veut compenser un petit peu l'effet délétère de ces antibiotiques, il est recommandé à l'heure actuelle de prendre des probiotiques. Ça va diminuer le risque de diarrhée lié à la prise d'antibiotiques et probablement limiter l'impact négatif qu'auront nos antibiotiques sur notre microbiote.
C'est quoi un petit peu les questions qu'on vous pose le plus par rapport à ça, par rapport au bien-être en tout cas de notre ventre, on va dire?
Moi, ce que je vois de plus en plus en consultation sont tous les troubles digestifs. Il y a notamment le syndrome de l'intestin irritable, des gens qui ont des problèmes de douleur au ventre, de ballonnements et de problèmes de transit. Ça concerne plusieurs millions de Français et Françaises, hein, c'est pas loin de 10% de la population, donc c'est pour nous, hein, le premier motif de consultation vers un gastro-entérologue. Dans ces problèmes digestifs, hein, de l'intestin irritable, il y a un rôle majeur du microbiote intestinal. La plupart du temps, les patients ont un microbiote qui est altéré, parfois du fait de leur mode de vie, parfois du fait de la prise répétée d'antibiotiques et parfois du fait d'infections digestives de type grosse gastro-entérite qui aurait pu être le point de départ de ce syndrome-là. Donc c'est effectivement ce que je rencontre le plus en consultation.
Parce que trop prendre d'antibiotiques aussi, ça peut forcément altérer.
Exactement. Alors, on a la chance d'avoir un microbiote intestinal qui est résilient, c'est-à-dire qu'il a cette capacité, après avoir subi une agression, comme la prise d'antibiotiques, de revenir à son état antérieur. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que cette résilience, elle n'est pas infinie, elle n'est pas illimitée, et que si on est amené à prendre de façon régulière des antibiotiques ou de façon trop prolongée, trop intense, le microbiote peut ne pas réussir à revenir à son état antérieur et rester déséquilibré de façon durable. Et c'est cet état de déséquilibre du microbiote irréversible qui va être propice à une moins bonne santé et parfois même au développement de maladies chroniques.
Forcément, le premier réflexe, je pense que moi, le premier, hein, ça serait d'aller voir un médecin généraliste. C'est quoi l'étape pour aller voir un gastro-entérologue? C'est quand ça s'empire ou il faut quand même y aller un petit peu avant normalement?
Alors, en fait, ce sera votre médecin généraliste de définir si c'est le moment de vous envoyer vers un gastro-entérologue. La plupart des spécialistes, c'est au médecin généraliste d'adresser vers un spécialiste. Donc, ce sera lui de dire bon, bah, maintenant, voilà, je suis un peu limité, je vais se passer la main et vous envoyer vers un spécialiste.
C'est, j'imagine aussi que votre agenda de rendez-vous est rempli également pour les gastro-entérologues. Il y a suffisamment de place ou c'est compliqué?
Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est que pareil pour tous les médecins. Je crois qu'on a tous un agenda très rempli. Moi, en plus, depuis que je suis un peu plus visible avec le livre, les réseaux sociaux, etc., ça a un petit peu empiré. Mais effectivement, je crois qu'il y a peu de spécialités actuelles qui sont préservées de ça et qui ont des rendez-vous très rapides, malheureusement.
C'est autour de combien de temps? Peut-être l'attente, c'est une idée.
On est plus de l'ordre de 3 à 6 mois.
D'accord, oui, quand même. Oui, mais après, c'est, comme vous dites, la situation de beaucoup de métiers de la santé. Donc, malheureusement, on est dans cette situation.
Exactement.
Pour revenir sur, justement, votre, on va dire, succès récent sur Instagram, voilà, vous avez publié une vidéo qui présentait un petit peu votre compte Instagram pour dire que vous présentiez les microbiotes, voilà, pour le vulgariser. Comment est-ce que vous vivez cette mise en lumière, j'ai envie de dire, récente?
Ben, avant tout, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour poster tout ce contenu. Donc là, ça marche, ça décolle, et donc ça fait forcément plaisir. Et puis surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais toucher beaucoup plus de monde, je vais permettre de sensibiliser plus de personnes, et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est comme pour l'écriture du livre, là, les réseaux sociaux, c'est un autre moyen de toucher du monde, de sensibiliser les gens sur l'importance de leur microbiote, sur l'importance de leur mode de vie, sur leur santé, et donc ça fait plaisir de pouvoir toucher plus de gens, d'avoir beaucoup de retours positifs. Donc,
C'est une manière de vulgariser, j'imagine, peut-être de mieux sensibiliser les gens. Je veux dire, votre travail scientifique, qui, bon, on peut le dire, ces dernières années avec le Covid, tout ça, ça a été parfois un peu désavoué, avouons-le.
Oui, et après, effectivement, l'idée, je pense que c'est aussi dans l'air du temps, les gens ont besoin de comprendre d'être acteurs de leur santé. C'est plus uniquement le médecin qui décide de leur santé, les gens sont acteurs de leur santé, ils ont besoin de comprendre, et pour qu'on comprenne, ils ont besoin de gens pour leur expliquer. Donc c'est normal qu'on soit quelques-uns à faire ça.
Comment on vulgarise justement, alors on vient de le faire certes à travers cette vidéo, mais comment est-ce qu'on vulgarise des données scientifiques qui peuvent paraître difficiles? Ça passe par parfois aussi les codes des réseaux sociaux?
Il y a les codes des réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, c'est sûr. Après, avant tout, c'est de limiter les termes scientifiques. Parce que dans la médecine, c'est malheureusement ça qui fait qu'on a un langage parfois pas compris. C'est-à-dire que les termes sont tellement compliqués que si on ne fait pas déjà l'effort de changer ces termes compliqués en termes simples, on n'est pas compris. Donc ça, c'est le premier effort que j'ai dû faire pour le livre. Et puis après, c'est en essayant d'expliquer aux patients, en essayant d'être compris, de voir qu'est-ce que les gens comprennent par rapport à ce que nous, on comprend en tant que médecin. Et puis après, quand on est sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a des codes liés aux réseaux sociaux, il y a des choses que pour les algorithmes, etc. Et ça, c'est encore au-delà. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'être compris et de ne pas avoir dans le discours des termes trop compliqués. Quoi.
J'imagine qu'après, à posteriori des vidéos, on vous pose des questions, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Beaucoup.
Oui, bien sûr.
Alors, j'ai vu sur l'une de vos stories, vous mettiez quand même un accent sur le fait que vous ne pouvez pas faire de consultation via Instagram, on est bien d'accord?
Bien sûr, d'une part, c'est illégal. Et puis, c'est pas la place de. On ne peut pas faire de consultation avec simplement un petit texte, un petit message, etc. On a besoin de voir les gens, on a besoin de les examiner, on a besoin de les interroger. Le risque, ce serait de raconter des bêtises. Et puis après, derrière, c'est la santé des gens qui est en jeu. Donc le but, moi, c'est de sensibiliser, c'est d'informer. Mais les réseaux ne sont pas le lieu pour faire des consultations et donner des avis médicaux.
Bien sûr, il faut mieux aller voir les vraies personnes, les êtres humains pour en avoir.
Exactement.
Revenons peut-être sur votre livre, Incroyable Microbiote, aux éditions Le Duc, je le rappelle. C'est un livre là où il y a quand même pas mal de choses schématiques avec des dessins et des choses beaucoup plus vulgarisées. Vous êtes associé, je crois, à une graphiste ou un graphiste?
Oui, tout à fait. Alice Varocco, qui est toulousaine, que je salue là aujourd'hui.
Très bien, bien
effectivement,
sûr.
Qui a contribué à faire. Je voulais que le livre soit facile à lire, soit qu'on puisse faire passer des messages importants. Et je crois que parfois les dessins ou une bonne illustration valent mille mots, valent tous les mots. Et donc je pense, pour moi, c'était important qu'il y ait les deux, qu'il y ait à la fois du texte, du contenu scientifique et à la fois du contenu sous forme d'illustration, et puisque voilà, les deux fonctionnent bien.
C'est accessible à partir de quel âge, je dirais? À partir d'enfants, ou quand même faut être un petit peu adulte?
Non, je pense qu'à l'adolescence, je pense qu'à partir du collège. Et d'ailleurs, le microbiote, à sa place, je crois, est enseigné en SVT. Donc oui, fin de collège, début de lycée, ça peut intéresser un peu. Voilà.
Qu'est-ce que ça pourrait apporter à la société de sensibiliser, en tout cas, je dirais pas au risque, hein, bien sûr, mais on va dire au microbiote et justement à ce qui se passe dans notre intestin, selon vous?
En fait, quand on essaie d'avoir un mode de vie qui est favorable pour nos microbiotes, on se rend compte qu'en fait, ça ressemble à l'écologie. Et en fait, c'est deux choses qui se rejoignent. Si on essaie de préserver notre écosystème microbien, on met en place des choses qui correspondent à ce qu'on fait pour préserver la planète, en gros. De manger principalement végétal, le moins transformé possible, d'avoir une activité physique régulière, donc si possible remplacer la voiture par la marche ou le vélo. C'est tout un tas de prendre des médicaments quand il faut, des choses. Je pense que l'écologie et le respect de nos microbiotes sont deux choses qui se rejoignent. En tout cas, moi, je m'en suis vraiment rendu compte en écrivant mon livre. Je me dis, mais à chaque fois, tous ces conseils-là, ça revient également à avoir des actions plutôt éco-responsables. Donc c'est clair, c'est un vrai point commun.
Et vous sentez qu'il y a une vraie prise de conscience de la part de ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux ou peut-être ceux qui lisent votre livre et vous font des retours?
Ouais, tout à fait. Après, c'est pareil, c'est dans l'air du temps. Hein. On parle beaucoup d'écologie, on commence à parler de microbiote, on parle de la santé, les gens commencent à s'intéresser à ce qu'ils mangent. Ils se rendent compte que jusqu'à présent, on mangeait, si on ne faisait pas attention, qu'on mangeait beaucoup de choses industrielles, entre guillemets, on s'intoxiquait petit à petit avec tout un tas d'additifs. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est globale et qu'on commence à voir apparaître, ce qui est bien.
Alors, on a eu les fêtes de fin d'année, on a tous très bien mangé. Alors, on est assez loin quand même des fêtes de fin d'année, disons-le. Hein, on est 3 semaines après cela. Mais on a vu les salles de sport se remplissent magicalement. Je le vois dans la mienne, par exemple. C'est quoi les conseils pour se bien tenir, en tout cas, son microbiote et ne pas tout faire tout de suite et, on va dire, dans un mois, tout lâcher?
Exactement. Donc, il faut se méfier des bonnes résolutions qui tiennent sur le mois de janvier en général. L'idée, c'est de modifier petit à petit son mode de vie, petit à petit son alimentation. De faire aucun changement drastique, mais c'est des changements qui doivent être progressifs, c'est une prise de conscience, c'est en faire un peu plus, mais pour tenir sur le long terme, il faut pas tout, il faut pas quelqu'un qui se met pas au sport, faut pas se mettre à 5 heures de sport par jour, changer totalement son alimentation. C'est des petits changements qui se font progressivement. Moi, sur l'alimentation, c'est pas, il y a rien qui doit se faire drastiquement. J'aime bien un peu la règle des 80-20, où on va dire 80% du temps on essaie de bien manger, de faire attention, et puis 20% du temps on se fait plaisir, on peut commander un fast-food, faire un truc comme ça. L'idée, c'est que on aime le plus souvent quelque chose qui soit plutôt bénéfique et de temps en temps on se fait plaisir. Voilà.
Sur votre page Instagram aussi, vous donnez des conseils, vous redirigez vers des conseils alimentation, vers des recettes simples?
Tout à fait, j'essaye, alors soit des choses que je maîtrise, mais je ne suis pas ni diététicien, nutritionniste, ni cuisinier, donc par contre j'essaie de relayer pas mal de certains d'autres influenceurs ou d'autres créateurs de contenu qui eux ont les compétences pour faire des recettes sympas, donc j'hésite pas à relayer tout ça.
En tout cas, on l'a bien compris, comme je le disais en introduction, le ventre, c'est le deuxième cerveau de notre corps, finalement.
Exactement, et peut-être même le premier chez certains.
Pour les émotions, en tout cas, c'est essentiel, en tout cas, c'est aussi essentiel.
Ouais, on commence à beaucoup parler de liens entre le microbiote intestinal et la santé mentale. Les émotions, c'est des choses qui commencent à être bien étudiées. Il y a beaucoup, beaucoup de données encore chez la souris, un peu moins chez l'humain, mais les choses commencent à apparaître. Effectivement, on se rend compte que autant notre cerveau peut commander nos intestins, que l'inverse est vrai aussi, les intestins peuvent avoir un impact sur le cerveau et notamment la santé mentale.
et bah, prendre soin de son petit bidou, c'est prendre soin aussi de son cerveau. Voilà. Merci beaucoup, Julien Scanzi, de nous avoir reçu.
Merci à vous.
Voilà, je rappelle que vous êtes donc gastro-entérologue à l'hôpital de Thiers et au CHU Estin de Clermont-Ferrand. Vous avez sorti un livre, Incroyable microbiote, aux éditions Le Duc, et donc votre page Instagram aussi fait forte impression, en tout cas en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, parce qu'il faut le dire, il y a assez peu de vulgarisateurs scientifiques, en tout cas auvergnats. Donc profitons-en. Merci à vous.
Merci.